Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie et restez avec nous pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Il y a très exactement 40 ans, le 20 juillet 1969, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme marchait sur la Lune. Le rêve popularisé en 1954 par Hergé devenait une réalité. En 1961, le président Kennedy l'avait annoncé, il avait lancé le pari, se fixait, je cite, comme objectif de réussir avant la fin de cette décennie à poser un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre. Ils furent finalement trois, Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Buzz Aldrin, qui partirent le 16 juillet 1969 donc pour un voyage de 8 jours, plus de 195 heures, dont un peu moins de 22 heures sur la mer de la tranquillité, 22 heures à découvrir quelques centaines de mètres. Ce n'était qu'un début, puisque d'autres missions suivront. 12 hommes au total ont marché sur cette Lune, trois fois plus petite que la Terre, avec des températures oscillant entre moins 153 degrés la nuit et plus 107 degrés le jour. Je vous propose pour cet anniversaire un nouveau voyage, une nouvelle aventure grâce à un livre incontournable, un chef-d'œuvre des technologies de l'image, fruit de milliers d'heures de travail. Il s'appelle sobrement Lune. Il présente en images ses voyages lunaires comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Il est sorti chez Talendier et son auteur est Olivier de Coursac. Olivier de Coursac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes né en 1959. Vous aviez 10 ans au moment de l'alunissage d'Apollo 11. J'y reviendrai plus tard. Vous êtes un spécialiste de l'imagerie spatiale. Nous y reviendrons également. Alors que vous aviez 5 ans, vous feuilletez l'astronomie populaire, un livre d'un certain Camille Flammarion. C'est le coup de foudre, si je puis dire. Vous n'avez pas 20 ans aussi quand vous écrivez à la NASA et vous avez pu séjourner à cette époque au Jet Propulsion Laboratory, qui est un centre de recherche et de développement en Californie. C'est ainsi que l'aventure commence. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment consacrés à la conquête martienne. Il ne s'agit pas ici de petits hommes verts, mais bien de planétologie, puisque c'est la science de l'étude des planètes, en l'occurrence la planète Mars. Et vous venez d'achever un travail monumental, je le disais, plus de 3000 heures de travail, pour réaliser un livre époustouflant qui nous emmène aux côtés des 12 hommes qui ont foulé le sol de la Lune. Est-ce que vous vous souvenez, Olivier de Coursac, du jour où vous avez décidé d'entreprendre ce travail?
Alors oui, je m'en souviens très bien. C'était en Amérique. C'était en fait dans une université de la côte Est, dans la vieille Amérique, à Brown University, dans la ville de Providence. Donc c'est vraiment l'Amérique ancienne. Et c'est là où justement, dans certains laboratoires, et en particulier celui de géologie, on a encore des piles de vieux documents poussiéreux à soulever, datant même du 19e siècle, puisque finalement, c'est là où l'histoire américaine est assez concentrée. Et à Brown University, qui est une des plus vieilles universités américaines, on conserve tout. Et en particulier, pour les missions Apollo, ils conservaient absolument tout, y compris l'historique du programme depuis sa genèse. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un professeur qui m'accueillait, le professeur Jim Head, qui est une sommité en géologie. Et c'est lui qui avait formé les astronautes d'Apollo, des trois dernières missions Apollo, 15, 16 et 17, on y reviendra peut-être après, à trouver des pierres intéressantes. Parce que les missions d'avant ont fait ce qu'elles ont pu, et avec plus ou moins de bonheur. On pourra en reparler aussi. Et en tout cas, il avait conservé tous les clichés. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visionner l'ensemble des images prises sur la Lune par les astronautes, donc la totalité, y compris les ratages. Et regarder tous les films pris par la caméra vidéo qui était embarquée soit sur la Jeep lunaire, la fameuse Jeep que les astronautes vont utiliser, soit un petit peu avant sur l'espèce de carriole, enfin la brouette lunaire qu'on a baptisée comme ça en France, parce qu'on essaye de trouver en France des analogies avec notre culture. Alors que les Américains ont un langage beaucoup plus brut pour désigner les objets. Bon. Moins poétique en tout cas. C'était extrêmement intéressant parce que j'ai pu faire à l'envers le test qu'avaient fait les astronautes. C'est-à-dire que j'ai pu marcher par photon interposé sur la Lune, constituant des itinéraires. Mmh. Et donc, avec plus ou moins de bonheur, puisque, un certain nombre de choses, j'ai fait moi aussi de très beaux ratages, comme les astronautes, dont Apollo 14. Donc, mmh.
Alors, on va revenir, Olivier de Corsac, sur le travail technique qui est très important, qui est la base de cet ouvrage. Mais il y a chez vous réellement une volonté pédagogique, une volonté de faire découvrir aux autres. Si on tape votre nom sur Internet, on voit que vous êtes à gauche et à droite à faire des conférences. Il y a cette volonté chez vous, c'est une tradition familiale chez vous de transmettre une culture.
Alors il y a une vieille tradition de famille, oui, famille remonte vieille, mais aussi une tradition NASA, parce que j'ai fait partie des premiers à avoir lancé ce qu'on appelle l'Outreach programme, c'est-à-dire c'est le programme de relations publiques de la NASA, qui a été conçu pour les missions vers Mars, c'est-à-dire diffuser de manière gratuite, de manière abondante, immédiate, les données reçues par les sondes spatiales. Et donc j'ai lancé ce premier programme.
C'était en quelle année ?
Ça, c'était en 1996, un an avant l'atterrissage de la sonde Mars Pathfinder sur Mars. Pour nos auditeurs qui s'en souviendront, c'est la sonde qui avait déjà son petit robot à roulettes en 1997, qui avait commencé à grimper sur des cailloux. Et à l'occasion, le contrat qui avait été donné au Jet Propulsion Laboratory, donc ce fameux laboratoire que vous mentionniez au début, qui est un laboratoire qui travaille pour le compte de la NASA et qui fabrique des sondes spatiales, disons planétaires, qui vont se poser sur des planètes. Le contrat était très clair, on vous finance la mission, avait dit le gouvernement américain, le patron de la NASA, à condition que tous les résultats soient rendus publics au même moment où elles sont reçues sur Terre. Ce qui a fortement déplu d'abord aux scientifiques, mais c'était la règle. Et donc moi je suis rentré dans cette optique-là, à savoir, ben oui c'est génial, parce que plus on diffuse, plus le public s'approprie les données, plus le public va voter pour des budgets, et plus les scientifiques auront des budgets pour continuer d'autres missions. Ce que n'avaient pas compris d'ailleurs les scientifiques au début, ils se disaient, ah mais non, mais mes données ce sont mes données, je me les approprie et il n'est pas question que je les diffuse. Et les plus malins d'entre eux ont très vite compris que plus ils se faisaient connaître, plus les sénateurs à la Chambre étaient plus enclins à écouter d'une oreille attentive des demandes budgétaires sur des prochaines missions, et plus il pouvait y avoir des budgets pour les missions suivantes. Et ce travail d'outreach, c'est donc la diffusion de connaissances en continu immédiatement. Alors, pour ce projet Lune, c'est ça. C'est-à-dire que le projet, ce que m'a demandé à la NASA... Bon, d'abord, j'ai de moi-même décidé de faire des mosaïques d'images, de cataloguer ces images de la Lune. C'était à partir de 1982. Ensuite, technique informatique aidant, j'ai commencé à assembler des basses résolutions pour construire des mosaïques, voir un peu comment elles pouvaient être assemblées entre elles. Parce que jusqu'avant, la NASA n'avait pas vraiment fait des mosaïques de ces photos. Les astronautes les avaient prises parfois ensemble pour faire des mosaïques, pour faire des panoramas, mais la NASA ne les avait pas assemblées d'une manière bien, parce que c'était compliqué, il n'y avait pas d'informatique.
Vous l'écrivez dans votre ouvrage, il y a plus de 18 000 photos, 18 667 très exactement. Ce sont des photos que l'on peut voir sur Internet. Et finalement, vous parlez de mosaïque parce que ce sont des photos qui sont prises comme ça, un peu à la volée. 18 000 photos ramenées au nombre d'heures, j'ai calculé, au nombre d'heures passées sur la Lune. Ça fait quasiment une photo toutes les minutes. Donc, il y a eu un quadruple travail que vous présentez, deux retraitements de photos, dont celui de mosaïque.
Il faut bien comprendre que quand les astronautes prenaient des photos sur la Lune, c'était ça parmi d'autres choses qu'ils avaient à faire. Donc, ils avaient une caméra, ils étaient parfois instables sur un pied, avec la gravité lunaire... Ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. Et les photos sont de guingois, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'horizon toujours plat.
Exactement. Bon. Ouais.
Et en plus, les techniques photographiques de l'époque, même si les pellicules étaient d'excellentes pellicules, parce que bon, c'est du Kodak, bien sûr, d'un excellent ektachrome. La NASA avait demandé à ce que ce soit un ektachrome conçu pour le vide spatial, vraiment aux qualités optimales. Mais malgré tout, les défauts sont venus au développement sur Terre. Même si le plus élaboré des laboratoires a été installé à Houston pour développer ces photographies historiques, parce qu'il n'était pas question de ne pas avoir ce qu'il y avait de mieux, puisque c'était les seuls clichés qu'on pouvait ramener, après tout, il n'était pas question de lancer des missions après. Il y a eu quand même des petites déchirures, des rayures, tout ça, parce que l'astronaute rembobinait manuellement ou électriquement du film, et on a beau éviter tout ce qu'on peut éviter, il y a les clichés...
Le numérique n'existait pas, il fallait changer les pellicules.
Mmh. Et en plus, ils réglaient eux-mêmes manuellement l'ouverture de l'appareil photo. Donc parfois, quand ça saturait un petit peu, le Kodachrome avait tendance à partir vers le bleu. Et donc on n'a parfois pas les vraies teintes lunaires, on a des teintes saturées vers le bleu ou vers le violet. Et donc ce qui se passe, c'est que pour reconstituer heureusement les couleurs, les astronautes positionnaient près d'eux un gnomon qui est en fait une espèce de tripode avec une mire de calibrage des couleurs où on avait, et des grisées. Donc on avait le contraste, la luminosité et les trois couleurs primaires.
Cet outil d'ailleurs est omniprésent dans les photos que vous présentez.
Ouais. Voilà, on le voit souvent et c'est vrai que si les couleurs, en fait c'est la transitivité, si les couleurs sont bonnes sur les photos de ces mires, sont les mêmes que celles que j'ai sur Terre, et bien c'est que là, les couleurs de la Lune sont bonnes. Alors il n'y a pas de mystère, la Lune donne au final quelque chose d'assez gris.
Alors quand on demandait à George Lucas pourquoi il avait mis 20 ans à reprendre la trilogie de la Guerre des Étoiles, il répondait qu'il avait souhaité attendre que les technologies puissent lui permettre de réaliser son rêve. Et là, finalement, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous êtes spécialiste du retraitement de l'image et c'est par vos connaissances techniques que l'on peut voir la Lune comme on ne l'a jamais vue.
Voilà, alors vous avez raison, c'est ça. On peut la voir telle que les astronautes l'ont vue. Hein, donc la promesse, c'est vous voyez la Lune telle que les astronautes l'ont vue derrière leur casque. Donc toutes les petites croix de repérage qui sont des croix, on va dire le symbole des missions Apollo, si il y a des croix, tout le monde sait qu'il y a des petites croix sur les photos, ben je les ai retirées pour assembler les mosaïques, parce que les mosaïques ben, apparaissent telles que le panorama, elles apparaissent telles que l'astronaute tournait la tête derrière son casque. Donc c'est un peu la nouveauté. Alors au risque, évidemment, d'alimenter la théorie de la conspiration, parce qu'on pourra toujours me dire, on me l'a dit, mais oui, mais tu truques les images Apollo, donc la preuve, c'est que l'homme n'a pas marché sur la Lune, la preuve, tu vois, toi tu fais des images truquées, quelle est la véracité des images? Alors je peux vous garantir, un, elles ne sont pas truquées, enfin, moi, mes retraitements, ce sont des retraitements, mais les images d'origine ne sont pas truquées. Les hommes ont bien marché sur la Lune, parce que d'abord, ils ont fait de très beaux ratages qu'ils n'auraient été incapables de faire en studio. Donc, tous les clichés qui ont été ramenés, ils ont bien marché sur la Lune, la preuve, c'est les clichés eux-mêmes, qui auraient été impossibles de refaire en studio de toute façon. Au final, ça donne quelque chose d'assez proche de la réalité. D'ailleurs, le livre Lune est préfacé par David Scott, qui est lui-même un des meilleurs astronautes photographes qui est marché sur la Lune, puisque lui-même était un photographe amateur déjà très éclairé avant, et il était très et les résultats de la moisson photographique de sa mission, particulièrement Apollo 15, ont été assez remarquables.
Au cours de toutes les missions, ils ont utilisé les mêmes types d'appareils photo ou à chaque fois il y avait une évolution technologique qui permettait d'avoir un résultat meilleur avec le temps?
Alors ils avaient, disons, un excellent appareil qui est la Hasselblad 500 de studio, hein, qui est l'appareil que, surtout bon, qui sert à faire de belles photos studio, du paysage aussi, mais enfin c'est un appareil où on a un viseur vertical, où c'est pas de la photo instantanée, c'est on pose, on cadre, on réfléchit, mais c'est vrai que c'est un matériel extraordinaire qui a résisté au vide spatial. Donc, ce que cherchait la NASA avant tout, c'était un matériel capable de travailler dans les pires conditions, et la Hasselblad a bien rempli son contrat. Et donc les astronautes avaient à leur disposition cet appareil qu'on avait aménagé pour leur Grogan. Donc ils avaient des boutons un peu plus gros pour être facilement, disons, manipulables par les gros doigts de leur gant.
Voilà. Quel a été le plus difficile sur la... Vous avez parlé de la correction des défauts de laboratoire, la correction des couleurs. On n'a pas évoqué la correction des détails manquants. Il y a aussi la construction des mosaïques. Quel a été le plus laborieux?
Bien, c'est de la restauration que j'ai vécue comme une restauration de tableaux des artistes du Louvre, hein, parce que le Louvre, et ce qu'il y a de l'école du Louvre pour ça, est une des meilleures au monde. Donc j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été dans, pas l'école du Louvre, mais enfin, qui a fait ses fameux cours du soir, hein, pour restaurer des tableaux. Et donc il m'expliquait des techniques de restauration de tableaux et je m'en suis beaucoup inspiré. C'est-à-dire que globalement, là où il y a des rayures, là où il y a des craquelures, en fait, ce que je fais, c'est que je corrige d'après la texture adjacente. C'est-à-dire que je reprends, j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui pouvait combler le trou ou la moirure ou le gros splotch qu'on trouve au milieu de la pellicule qui a fait que le détail manque. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est les astronautes eux-mêmes, quand ils ont pris des images, au petit bonheur, parfois, il manquait un détail dans leur paysage ou alors un détail de leurs engins. Souvent, on a des toits de modules lunaires qui sont coupés parce qu'ils prennent l'horizon puis ils oublient le module lunaire lui-même. Et or, dans leur casque, ils voyaient la totalité du module lunaire. Donc, pour moi, le gros travail, c'est comme une restauration de tableau. Il y a un détail manquant, j'essaie de dire comment le peintre avait peint à l'époque cette manche qui manque, comment est-ce qu'on peut faire. Donc, on retrouve dans l'historique de ces peintures la manière dont il traitait le sujet. On retrouve dans des tableaux équivalents la manière dont la dentelle pouvait être faite ou le tissu pouvait être reconstitué. Et bon, moi, c'est la même chose. Donc, je vais refouiller dans les archives NASA pour retrouver le toit du LEM tel qu'il était en usine ou tel qu'il a été pris par une autre mission sur la Lune sous le même éclairage. Et je refusionne les deux pour donner le paysage complet tel qu'ils l'ont eu. Donc, c'est une restauration de tableau, en fait. C'est vraiment la technique, mais appliquée avec de l'informatique.
Le livre Lune, dont vous êtes l'auteur, Olivier de Coursac, en est le résultat. C'est un livre préfacé par David Scott des missions Apollo 9 et 15 et préfacé également par James Garvin de la NASA, un ouvrage paru chez Talendier. Nous nous retrouvons dans un instant.
Les sciences de l'univers sont sur Canal Academy. Françoise Combe vous emmène au cœur des exoplanètes. Le paléontologue Philippe Taquet vous initie à la chasse aux fossiles. Suivez Claude Lorius en expédition au pôle Sud. Quant à Yvan Le Mao, il vous propose d'observer les manchots en terre à Delhi. Des rencontres uniques avec les académiciens des sciences, à télécharger librement, sans plus tarder, sur Canal Academy.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'anniversaire du premier voyage sur la Lune, 1969-2009. Et je reçois au micro de Canal Academy Olivier de Coursac, auteur du livre Lune, un ouvrage d'images, la Lune telle que vous ne l'avez jamais vue encore, ou en tous les cas telle que les astronautes l'ont vue, un ouvrage préfacé par David Scott de la mission Apollo 9 et Apollo 15, et James Garvin de la NASA, un ouvrage paru chez Talendier. Alors nous avons évoqué, Olivier de Coursac, la partie, j'allais dire, technique de la constitution de l'ouvrage. Venons-en à l'histoire. Vous avez souhaité diviser votre ouvrage en quatre grandes parties, les aventures, les empreintes, le nouveau monde et les explorations. Avant de venir à ces quatre parties, peut-être une question toute bête. Pourquoi ce nom d'Apollo ? Comment le nom d'Apollo a-t-il été retenu dans l'histoire de la NASA ?
Écoutez, c'est une bonne question. Ça a été Mercury pour les cabines à une place, Gemini pour les cabines à deux places, et Apollo, il me semble, alors j'espère, je ne vais pas dire de gros bédis à l'antenne, que c'est le nom des c'est les trois chevaux qui tiraient le char
dans la mythologie.
Ouais. Vous m'avez collé.
Alors, les aventures.
Joker.
L'aller et retour entre Terre et Lune, puis entre Lune et Terre, 3 jours de voyage. Il y a combien de kilomètres entre la Terre et la Lune ?
Oh, 380 000 kilomètres, on va dire, au minimum, à peu près. 380 000 kilomètres en moyenne.
Alors, pendant ces 3 jours, l'équipage ne reste pas inactif. Quelles sont ces activités, précisément ?
Bon, déjà, alors, on accroche, la cabine Apollo va s'extraire du troisième étage qui l'a propulsé vers la Lune, le troisième étage de la fusée Saturne V, et va se retourner pour aller extraire le LEM. Ça va assez vite. On va dire que la première journée est très occupée. On extrait le LEM de son troisième étage, on se retourne et on part vers la Lune. On continue, en tout cas, vers la Lune. Et puis, la première journée, donc, on ouvre l'intérieur du LEM et on regarde si le vaisseau, le module lunaire est bien configuré pour le reste de la mission. S'il n'y a pas eu de panne ou s'il n'y aura pas de panne. Donc on met tous les systèmes du module lunaire en service. Ensuite, le deuxième jour, ils continuent à vérifier leur checklist, c'est-à-dire ils vérifient la liste des tâches qu'ils auront à accomplir. En fait, ils se préparent à la mission elle-même. Le troisième jour, on se prépare à tourner autour de la Lune, tout simplement. Donc on fait encore des tâches ménagères et on regarde ça. Puis ensuite, on passe en orbite autour de la Lune et alors là, on répète l'atterrissage. C'est-à-dire que tant que le LEM ne s'est pas posé, ils sont debout à travailler, vraiment, pour préparer l'alunissage lui-même.
Alors, l'orbite de la Terre, quand on part, c'est bien connu, les images sont bien connues, elles ont été popularisées des milliers de fois par le cinéma. Mais dans l'orbite de la Lune, on voit des cratères. D'où viennent ces cratères ? C'est une question finalement bête, c'est une question que me posent mes enfants. D'où viennent les cratères de la Lune ?
Mais non, mais ce n'est pas du tout une question bête, parce qu'en fait, on se l'est posé jusqu'à encore il y a 30 ans. Parce que finalement, c'est juste encore un peu avant Apollo, on a commencé à comprendre d'où ils venaient. Donc c'est des astéroïdes, ce sont des gros cailloux qui sont venus taper dessus, qui ont fait des trous. Mais avant, on pensait que c'était des volcans. Jusque dans les années 60, on a cru que c'était des volcans. Et ce n'est que depuis les années 60, grâce à un géologue de renom qui s'appelle Eugène Shoemaker, qu'on a compris, parce qu'il a regardé la formation d'un cratère qui est assez connu, qui s'appelle maintenant le Meteor Cratère dans l'Arizona, qu'on a compris que le Meteor Cratère avait été fait justement par un météorite. Et il est nommé comme ça à cause de lui, parce qu'avant, c'était le cratère Barringer. Et on ne savait pas très bien, comme on pensait que c'était un trou, il y a peut-être un truc qui était tombé dessus, mais on n'était pas complètement sûr. Mais lui, il a eu l'intuition géniale que les cratères avaient été formés par des corps qui viennent taper dessus. Et donc la Lune est faite de cratères, c'est-à-dire des corps qui sont venus taper dessus, et des cratères secondaires, parce que le gros impact d'astéroïdes qui est venu taper sur la Lune, qui a fait un très gros trou, à projeter dans l'espace d'autres morceaux de la croûte qui eux-mêmes sont venus se redéposer plus loin. Donc, démultipliant la force de l'impact, si vous voulez.
Donc, la Lune n'a pas la protection de la Terre.
Et même la Terre, elle n'a pas la protection de l'atmosphère de la Terre qui, elle arrête. La Terre arrête les petits corps, les petits météorites, elles sont arrêtées. Mais une très grosse météorite qui ferait 100 mètres de diamètre, elle arrive jusqu'au sol sans problème. Et elle fait un très gros trou.
Bon, elle a plus de chances de tomber dans la mer.
Elle a plus de chances de tomber. Voilà, ça fait un tsunami. Voilà, donc, effectivement.
Alors, la Lune n'est pas plane, bien évidemment, au contraire. Et vous donnez, votre livre est très complet puisqu'il donne toute une série d'annexes. Et dans ces annexes, il y a un comparatif Terre-Lune. Et la Lune a son Everest et elle a sa fosse des Mariannes, la fosse des Mariannes étant le point le plus bas sur la Terre.
Oui, c'est assez profond. Finalement, on s'est aperçu en cartographiant la Lune que la Lune avait d'énormes creux, d'énormes bosses. On pensait que on savait que c'était pas plat parce qu'il y avait des cratères, mais on pensait pas qu'il y avait une telle dénivellation globalement dans des grandes régions.
Donc on a une région qui est à moins 9008 à peu près, et puis une autre qui est à
et l'autre qui est à plus 8000. Donc on a une amplitude finalement assez importante.
Ce qui m'a étonné à la lecture de votre ouvrage, chaque image, hein, il y a combien de photos, je n'ai même pas compté, mais sur toutes ces dizaines et des dizaines de photos, il y a des légendes, et ces légendes présentent des mers, des cratères, et chaque mer, chaque cratère a son propre nom. Quand est-ce qu'on a défini ces différents noms?
Assez vite, finalement, après Galilée, puisque Galilée a tourné sa lunette vers la Lune, puis les autres astronomes derrière, on l'a fait aussi, et très vite, ils sont tous mis d'accord pour donner des noms aux mers, et en fait, c'est assez rentré dans le langage courant. Donc, on pensait que c'était comme on voyait des étendues sombres, on pensait que c'était de l'eau. Et en fait, c'est des étendues laves refroidies. Voilà.
Alors, il y a des images extraordinaires. J'en retiendrai notamment dans la partie aventure l'éclipse de soleil par la Terre vue depuis l'espace et surtout un lever de terre sur la mer de Mir. Et vous, enfin, dans le travail de l'image, vous montrez bien la progression de cette Terre qui se lève. Mais les choses vont très vite.
Elle se lève très vite parce que la Lune est toute petite et vous tournez très vite autour. Donc, en moins de 2 minutes, c'est fait, le lever de terre. Mais la Terre est très impressionnante vue de la Lune parce que elle est 4 fois plus grosse que notre Lune vue de la Terre. Donc ça fait quelque chose de gros dans le ciel quand même.
Ouais, ouais.
C'est impressionnant. Et en plus, c'est tout coloré, plein de bleu, plein de d'ocre. Donc c'est pas un objet terne comme notre Lune qui est un peu jaunâtre. Là, vous l'avez vraiment plein pot, un truc qui est bariolé de couleurs avec du blanc étincelant sur le nuage, le bleu de l'océan, on le voit bien, la couleur ocre des déserts éclate aux yeux.
Je reviens, vous évoquiez tout à l'heure la face cachée de la Lune. C'est sur la totalité des missions, toutes ces missions se sont faites sur la face cachée ou la face non cachée ?
Face visible.
La face visible.
Oui, elles se sont faites sur la face visible parce qu'il fallait, même si le vaisseau Apollo tournait autour de la Lune, parce qu'il était en orbite, donc il passait alternativement de la face visible à la face cachée, les astronautes se posaient sur la face visible, ne serait-ce que pour être en liaison constante avec la Terre.
Donc il y a vraiment une question technique. Dans le film, je crois que c'est Ron Howard, Apollo 13, on voit le vaisseau en fait passer derrière, et il passe là aussi très vite.
Oui, il passe très vite et dans une zone de silence parce que la Lune bloque les communications avec la Terre. Mais il tourne vite. C'est un tour en moins de 2 heures, donc ça va très vite.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est cette capacité à communiquer finalement. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'ondes suffisamment puissantes pour pouvoir communiquer aussi loin.
Oui, déjà à l'époque, c'était assez remarquable. Ils avaient plein de capteurs partout dans leur vaisseau qui donnaient en temps réel des données vers la Terre. Donc si quelque chose tombait en panne, tout de suite la Terre, les ordinateurs de la NASA analysaient et qualifiaient les pannes. Et pouvaient dire aux astronautes, vous avez une panne à numéro temps à tel endroit. Et les astronautes pouvaient agir. Donc c'est assez remarquable. La conquête de la Lune ne s'est faite que par... Elle ne s'est pas faite par chance. Elle s'est faite par une accumulation d'expériences où rien n'a été laissé au hasard. Je vais prendre comme analogie le débarquement. Et le débarquement n'a réussi que parce qu'il était extrêmement préparé. Pour globalement un GI qui allait se battre, on avait 9 GI, enfin plutôt personnes... à l'arrière, qui préparait, qui faisait tout ce qu'on appelle le train dans l'armée, c'est en fait, et même qui faisait tout ce qui est l'approvisionnement, tout ce qui est la technique et technologie. Donc la Lune, c'est l'aboutissement de ça, c'est-à-dire que tout pour la conquête de la Lune est préparé à l'avance, vérifié, répété,
Et on procède par expériences successives. C'est-à-dire que chaque mission ne fait pas ce que fera la mission suivante. La mission suivante, c'est un cran au-dessus une fois que l'expérience est emmagasinée. Vous voyez. Donc par exemple, Apollo 10 et Apollo 11, la grande différence entre Apollo 10 et Apollo 11, Apollo 11, c'est la mission qui se pose, c'est celle du premier pas. Apollo 10, on fait la répétition complète jusqu'à 15 km d'altitude seulement. Les astronautes ne vont pas se poser sur la Lune. Ils vont frôler la Lune à 15 km. Ils vont larguer les tâches de descente du LEM comme s'ils étaient en train de remonter de la Lune, mais ils ne se seront jamais posés dessus.
Il y a dû y avoir une frustration, on imagine.
Oui et non, parce que c'était leur mission. C'était de tout répéter autour de la Lune. Sachant que la mission d'avant Apollo 9, on avait tout répété autour de la Terre, et la mission Apollo 8, on avait simplement tourné autour de la Lune, c'est tout. Chaque étape est maîtrisée. Une fois que l'étape est maîtrisée, l'équipage suivant doit avoir engrangé les expériences, doit faire un truc de plus. Donc le truc de plus étant acquis, on ne le répète plus. C'est ouais. Fait, c'est acquis. Ça doit marcher. Donc Apollo 8 a répété la mise en orbite autour de la Lune. Quand Apollo 10 est arrivé autour de la Lune, c'était plus répétable puisque ça avait été déjà maîtrisé. Donc on savait qu'on avait appuyé sur tel bouton, on devait faire telle chose, ça marcherait. Il n'y a pas de surprise, ça devait marcher. Et par contre, la nouveauté, c'était de décrocher le LEM, de le faire tourner autour de la Lune avec la cabine Apollo, de le faire commencer l'atterrissage. Et on ne se pose pas encore, on remonte vite en sécurité autour de la Lune. Apollo 11, eh ben, on bénéficie de l'expérience d'Apollo 10, donc on s'est décroché son LEM, on s'est commencé à se poser, mais là, on se pose vraiment. On fait les 15 derniers kilomètres, on se pose. Et on descend, on prend quelques cailloux et on remonte. On reste que 2 heures, moins de 2 heures sur la Lune. Apollo 11, on reste pas longtemps sur la Lune. Et Apollo 12, on bénéficie de l'expérience d'Apollo 11. Donc on sait que maintenant, on sait qu'on peut se poser, on sait qu'on peut tourner autour de la Lune, on sait qu'on peut décrocher son LEM, on sait qu'on peut atterrir, qu'on peut se poser, donc c'est maîtrisé, on sait qu'on peut se poser, on sait qu'on peut marcher sur la Lune. Donc on fait un cran plus loin. On va pas y rester 2 heures, on va y rester 2 jours, avec une nuit à bord. Bon. Et puis on continue comme ça, Apollo 17, à partir d'Apollo 15, on y reste 3 jours, vous voyez, sur la Lune. Donc ce sont des missions, ça projette par étapes petit à petit.
Oui, donc il faut distinguer c'est ce que j'ai mal fait dans mon introduction, il faut distinguer le séjour lunaire de l'EVA, l'EVA qui est en fait...
L'extravéhicular activity, qui est vraiment la sortie lunaire. Vraiment.
La sortie lunaire, donc, qui dure pour Apollo 11, vous l'écrivez, 2h31. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce fameux alunissage. C'est ce que nous allons voir, Olivier de Corsac, après cette deuxième pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Academy vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademy.com.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée à l'anniversaire du premier homme sur la Lune. Je reçois Olivier de Corsac, auteur du livre « Lune » paru chez Talendier. La Lune, comme vous ne l'avez jamais vue auparavant, une Lune telle que l'ont vue les astronautes. Alors, nous avons évoqué ce que vous appelez les aventures dans votre ouvrage, à savoir l'arrivée sur la zone lunaire. Est-ce que vous pourriez décrire comment se passe ce qu'on appelle un alunissage? Comment s'est passé d'abord le premier alunissage, puisqu'il y en a eu 6?
Le tout premier, celui d'Apollo 11, avait été beaucoup répété dans simulateurs. Donc Armstrong s'est posé manuellement, parce qu'il pilotait son LEM manuellement comme un hélicoptère. Il faut imaginer que ça se pilote comme un hélicoptère et on se pose sur la Lune. Donc un hélicoptère, c'est très instable par essence. Et donc, il devait poser un engin extrêmement instable. Il est arrivé. La question pour lui, ce n'était pas de le poser parce qu'il pensait qu'il y arriverait. La question pour lui, c'est pouvoir le poser bien pour pouvoir bien redécoller et retourner. Parce que la mission n'était réussie que si les astronautes rentraient, pour le pari de Kennedy, sains et saufs sur Terre. Parce que c'est la phrase de Kennedy, c'est « et les ramener sains et saufs sur Terre ». Parce qu'on ne sait pas que le pape sur la Lune, c'est « et les ramener sains et saufs sur Terre ». Parce qu'ils auraient fait le premier pas sur la Lune, ils seraient morts. Le pari était perdu. Pas gagné en tout cas. C'était un bel exploit, mais c'était pas suffisant. Parce qu'on aurait pu, les Américains aussi auraient pu déposer de manière mécanique par un robot un drapeau américain sur le sol lunaire. L'homme ne serait pas rentré non plus vivant sur Terre. Donc on pouvait imaginer tout ce qu'on voulait. La Lune peut se coloniser de manière mécanique par des robots. Mais là, il fallait se poser et rentrer vivant. c'était autre chose. Et le trajet de retour vivant était plus compliqué que le trajet d'aller, parce que le trajet d'aller, vous avez tout votre matériel avec vous. Quand vous rentrez vers la Terre, il ne vous reste plus rien, parce que vous avez tout laissé derrière vous. Donc si vous avez une panne, paradoxalement, pendant le retour, elle est beaucoup plus grave qu'une panne à l'aller. Et c'est ce qui a sauvé la mission Apollo 13. Parce que la mission Apollo 13 a été sauvée parce que l'explosion dans le module de service, donc la partie, disons, mécanique juste derrière la cabine Apollo, s'est passée, cette explosion s'est passée pendant le trajet aller Terre-Lune. Et ils ont pu avoir le LEM comme canot de sauvetage. Imaginez que cette explosion soit produite au retour, ben là, ils étaient morts. Parce qu'ils n'avaient aucune ressource. Aucune ressource pendant le trajet Lune-Terre. Leur cabine n'avait plus d'électricité, elle n'aurait pas pu se séparer du module de service, ils seraient morts en rentrant brûlant dans l'atmosphère. Donc c'était quand même un vrai pari technique et compliqué.
Les premiers pas sur la Lune, donc le premier à poser et à mettre le drapeau.
Ils avaient...
C'est le premier acte.
Oui.
Parce qu'il y a la première photo, c'est très étrange d'ailleurs. La toute première photo, vous la montrez, elle est moins extraordinaire qu'il n'y paraît, puisque c'est un sac d'outils, oui, qui tombe, j'allais dire par terre, mais par lune en fait.
Oui, c'est ça. Oui, ben Armstrong, les photos, c'est pas ce qu'il a fait de plus réussi. Lui, ce qu'on lui demandait, c'était de réussir sa mission et de rentrer sur Terre. Donc il a pris des photos, on va dire.
Bon, oui.
Il s'y est attelé du mieux qu'il pouvait, ils avaient pas reçu une formation pour ça. Et donc on a des photos qui sont prises, qui assemblées en mosaïque permettent de faire quelques panoramas, parce que on peut pas en faire beaucoup. Et puis voilà, la moisson photographique de la Lune n'a pas été, pour Apollo 11 en tout cas, la tâche primordiale. C'était ramener des cailloux, installer la caméra de télévision pour que les gens puissent le voir en direct,
oui,
surtout. Et puis s'ils ramenaient des photos, c'était tant mieux, ils en ramèneraient. Mais après, la qualité n'avait pas grande importance. Aux grandes dames des scientifiques, puisque les scientifiques ont été très déçus de voir sur Terre que là où ils ont prélevé des échantillons, des roches, ils n'avaient pas pris une photo avant et une photo après. Et donc ils ont simplement pris des champs de pierre et on ne sait pas finalement, quand on a ramené les cailloux sur Terre, on ne savait pas où est-ce qu'ils avaient été ramassés. Et ça, c'était très dommageable pour la science.
Quelle est la part, parce que quand on montre des images de la conquête spatiale, on montre un peu indifféremment les différentes missions d'Apollo sans véritablement dire s'il s'agissait d'Apollo 11, d'Apollo 14, d'Apollo 15. Il y a notamment cette vidéo d'Apollo 12 que l'on montre systématiquement. Il ne s'agit pas d'Apollo 11, il s'agit d'Apollo 12.
Bah, Apollo 12, oui, ils ont eu 3 minutes de vidéo parce que la caméra de télé est tombée en panne. Donc après, on a fait jouer des astronautes en costume dans un studio pour montrer aux spectateurs qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire au même moment, parce que le spectateur était très frustré d'image. Et c'est ce qui a contribué au déclin de la...
Du complot.
Au début du complot, mais surtout au déclin de l'intérêt du public américain pour l'émission lunaire. Parce que finalement, voir des bimins d'hommes en studio essayer de réimiter ce qui se passait sur la Lune sans voir ce qui se passait vraiment, c'était pas très bien pour les Américains, qui eux-mêmes, c'est un peu visuel. Ils aiment ce qui bouge, ils aiment la télé, etc. Donc c'était pas... La communication, on n'a pas pu faire mieux à l'époque. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Armstrong a un visage rayonnant après sa mission. Quand il rentre dans le LEM, on voit bien qu'il est ravi d'avoir marché sur la Lune. Aldrin est très content d'avoir marché sur la Lune aussi. Mais ils savent qu'ils ont vécu finalement leur apogée, parce que ils ne referont plus jamais quelque chose comme ça.
Ouais.
D'autres, après eux, ont eu la chance d'aller deux fois autour de la Lune. Par exemple, John Young, qui a fait cette fameuse mission Apollo 10 dont nous parlions, qui est la mission qui ne s'est pas complètement posée sur la Lune, ils se sont frôlés la Lune à 15 km, a pu repartir vers la Lune pour la mission Apollo 16, où il était commandant de bord, il a pu marcher dessus. Donc il y en a qui ont fait deux fois le voyage. Cernan, qui a fait la mission Apollo 10 aussi, a été commandant de bord de la mission Apollo 17. Jim Lovell, qui a fait aussi deux missions, donc qui a fait Apollo 8, s'est retrouvé dans cette fameuse mission Apollo 13. Alors lui, très frustré, parce qu'il a fait tourner autour de la Lune. Enfin, c'était déjà un bon voyage.
Alors, il y a un film qui a remporté un grand succès il y a plusieurs années, ID4, Independence Day, où on voit en fait un vaisseau spatial extraterrestre frôler la Lune, et on voit le drapeau américain. Alors, le drapeau américain n'a pas pu être... Enfin, il a été planté, mais vous l'écrivez, il est tombé parce qu'il a été planté beaucoup trop près du module.
Oui, bah pour Apollo 11, il était planté trop près, donc au décollage, il a probablement été soufflé. On le voit vaciller en tous les sens, essoufflé. Pour Apollo 12, pareil, ils l'ont planté très proche. Apollo 14, un petit peu plus loin.
Oui.
Bon, donc, je pense qu'il y en a qui sont encore debout.
dans ce fameux film ID4, il y a une plaque. Est-ce que ces plaques existent et que disent ces plaques?
Alors pour Apollo 11, c'est Airmen from the planet Earth, first set foot upon the moon, il y a la date July 1969. Donc ça veut dire ici l'homme pour la première fois a foulé le sol de la Lune juillet 1969.
Il y a un but pacifique, hein, la mission a un logo et ce logo représente un aigle, je crois, avec un rameau d'olivier.
Rameau d'olivier. Alors, jusqu'à la dernière minute, il y a eu le choix entre le drapeau des Nations Unies et le drapeau américain. Il faut savoir que la question du drapeau était une question hautement politique. C'est le président, à l'époque Nixon, qui l'a tranché. Mais jusqu'à la dernière minute, il était la possibilité de mettre le drapeau de l'ONU. Et le président Nixon a dit, bah zut, c'est quand même le contribuable qui paye, quoi, quand même. Ça s'est fait que sur cette considération-là. Parce qu'ils ont dit, tout le reste, c'est la paix, parce qu'on emmène tous les drapeaux de tout le monde. Et c'est vrai que tous les drapeaux de tout le monde ont été emmenés, ouais, sur la Lune, physiquement, bon. Il y a des plaques commémoratives, donc c'était une mission qui était vécue, d'ailleurs, comme un moment de communion sur la Terre. Les gens étaient contents, mais c'est l'Amérique telle qu'on l'aime.
Ouais.
Finalement, c'est l'Amérique généreuse, rayonnante, apportant des valeurs, pas que sonnantes et trébuchantes d'ailleurs, mais des voleurs de partage, d'amitié, des gens généreux, vous voyez, qui s'entraident les uns les autres. C'était cette Amérique-là qu'on aime bien, des grosses voitures qui vont faire la route 66. Donc c'est ça, c'est cette Amérique un peu qu'on aime bien, celle des années 60. C'est la liberté, les grands espaces, et tout le monde l'a vécu comme ça. Et finalement, moi je me souviens quand j'étais petit, c'était pas dans le fait que l'Amérique qu'il faisait, que c'était un homme qui posait ses pieds sur la Lune. Moi bon, j'étais fier de voir, bon, finalement c'est les Américains qui le faisaient, mais c'était aussi une mission, c'était l'homme qui posait ses pieds sur la Lune, c'était une grande aventure humaine.
Vous dites dès les premières pages de l'ouvrage, aller sur la Lune coûte cher, 75 000 dollars, très exactement la minute. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas rester inactif. Nous allons y revenir. Je voudrais rester tout de même sur le registre de l'anecdote. Il y a beaucoup de premières fois sur la Lune, des plus techniques aux plus insolites. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques anecdotes sur ces premières fois?
Bon, bah, y a eu, en dehors du premier pas, il y a eu le premier jeté de polystyrène sur la Lune, c'était Apollo 12. Ça les a beaucoup fait rire, ils se sont aperçus parce que tout était emballé dans du polystyrène. Et ils se sont aperçus que comme c'était ultra léger, ils pouvaient, par moindre gravité que sur Terre, ils pouvaient l'envoyer extrêmement loin. Donc ils envoyaient des blocs de polystyrène voler jusqu'à 300, 400, 500 mètres de distance. Alors aujourd'hui, au critère d'aujourd'hui, c'est pas très propre, ils auraient pu ramasser leurs déchets, mais on s'en fichait. Et d'ailleurs, on s'en ficherait toujours. La Lune, si vous voulez, pourquoi? Parce que d'abord, quand vous êtes dans une combinaison spatiale, vous marinez 6 heures, 7 heures dedans pour les missions les plus longues et c'est intenable à la fin. Et donc, votre temps est précieux et vous vous fichez quand vous déballez vos instruments, vous allez au plus vite. Et tant pis, bah, vous jetez les emballages. Et vous n'avez pas le temps de les ramasser parce qu'encore une fois, tout le temps que vous passez à les ramasser, c'est pas ramasser des cailloux, pas faire de la science. Donc, la NASA a privilégié le fait que les astronautes faisaient ce qu'ils voulaient, ils balançaient les choses. Alors, il y a des équipages où la poubelle est plus ramassée près du LEM. Il y a des LEM, il y a quelques photos dans l'ouvrage Lune. Et effectivement, on voit, j'ai fait une section comme ça, où on voit la poubelle qui est autour du LEM. C'est un chantier, hein. Vraiment, il y a des morceaux partout. Il n'y a pas que des morceaux de polystyrène, des morceaux de métal, du plastique, enfin tout y passe. Des filins, des cornes, tout ce qu'on peut imaginer. Et on voit le LEM qui est entouré d'un... C'est une décharge, vraiment, autour. Bon. Et puis, il y a, par contre, ces très belles natures vierges, où ils vont loin, parce qu'ils vont parfois jusqu'à 8 km de distance du LEM. Et là, on découvre là où l'homme n'a jamais foulé le pied, où le LEM même disparaît derrière l'horizon. Et ça, c'est très beau. Ils sont seuls au milieu de nulle part. Et il n'y a que leur jeep. Et c'est ces images-là que je montre qui sont très belles. C'est, on voit un gant, parce que les rattaches sont très beaux. Les anecdotes, c'est ça. C'est à un moment, ils se disent, tiens, est-ce que ma jeep est bien garée à Houston? Bon, donc il fait une manœuvre pour garer sa jeep au milieu de nulle part. Et il fait un très beau créneau. Voilà. Ils font, par exemple, ils font du ski sur la Lune à un moment. Et il y avait des terrains très pentus et comme il y avait une grosse couche de poussière, ils s'étaient aperçus qu'ils pouvaient descendre en faisant comme un Stem Christiania sans ski dans la Lune. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se servir de la porosité du sol lunaire comme un tapis de poussière sur leurs pieds et en bien jonglant avec les pieds alternativement de droite à gauche, ça faisait comme un coussin et ils pouvaient glisser comme sur des skis en descendant en prenant la pelle d'un côté et puis en prenant un échantillon de l'autre, ça leur faisait comme des bâtons de ski et ils pouvaient arriver à descendre. Donc ils révisent, à un moment il y a des bonnes scènes amusantes où ils font choup choup, je fais du Christiania quoi. Donc il y a, effectivement il y a des détails comme ça.
se sont perdus sur la Lune. Apollo 14 est une mission qui, autant Apollo 13 est un échec réussi, autant Apollo 14, c'est une réussite dans l'échec, puisque finalement, ils ont loupé leur objectif de mission, ils n'ont pas atteint leur objectif, et ils n'ont pas ramassé les bons échantillons. Enfin, c'est très décevant. Et ils ont réussi à s'engueuler sur la Lune, ils ont réussi à... Vraiment, ça a été une mission terrible pour ça. Et par contre, on a tiré une balle de golf. Shepard a tiré sa balle de golf pour des temps d'atmosphère. Bon, voilà, bon. Donc, il y a eu des petites premières comme ça, anecdotiques.
Il y a l'anecdote de la photo de la famille de Charles Duke, c'est bien cela?
Oui, oui, Charles Duke.
Je peux vous montrer, il a laissé cette photo sur la Lune?
Oui, oui, il a voulu mettre sa famille sur la Lune, il a laissé une photo. Il a mis un Polaroid, une photo Polaroid toute bête, qu'il a mis avec un bout de plastique, il a posé sur la Lune, il a fait la photo de sa famille sur la Lune.
Apollo
Alors,
16,
je l'ai redressé, effectivement, je l'ai redressé, je l'ai nettoyé, et on devine, on voit les personnages souriants.
Oui,
donc,
oui, oui.
Il y a lui, sa femme et ses deux enfants. Sa femme Dottie et ses deux enfants.
Nous nous retrouvons, Olivier de Coursac, dans un instant pour cette toute dernière partie de cette émission d'Un jour dans l'Histoire.
Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'anniversaire des premiers pas sur la Lune. Et pour cette émission, je reçois Olivier de Coursac, auteur d'un livre magistral intitulé sobrement Lune, un ouvrage paru chez Talendier et préfacé par David Scott des missions Apollo 9 et 15 et par James Garvin, directeur technique à la NASA. Alors, nous avons laissé nos auditeurs sur quelques anecdotes, sur toutes ces premières fois, sur cette balle de golf tirée en pleine crise lunaire, alors que tout le monde se disputait. Mais il y a bien évidemment un but scientifique qui est clairement affirmé. Il s'agit de découvrir et d'approfondir nos connaissances. C'est ce que font la plupart du temps ces astronautes.
Alors les astronautes, on va dire qu'en science, il y a eu des hauts et des bas. La mission Apollo 11 n'est pas une mission scientifique, c'est une mission où on pose le pied sur la Lune. Très clairement, d'ailleurs elle est qualifiée comme ça, c'est une mission de type G, c'est-à-dire c'est une mission courte, on pose le pied, c'est la mission du pari gagné. On valide que l'homme peut poser le marché sur la Lune. À partir de la mission Apollo 12, on commence à faire un circuit aux astronautes. Donc ils installent des expériences un peu plus compliquées que celles d'Apollo 11, et ils ramassent des échantillons avec un itinéraire précis, pour essayer de comprendre un peu des cratères. Apollo 14 aurait dû être une mission géologiquement intéressante, mais qui n'a malheureusement pas marché. Et donc, on va dire que les vraies missions de géologie, c'est 15, 16 et 17. Alors 15, c'est la découverte, c'est la mission des missions, la belle mission Apollo. D'abord, elle est, sur le plan technique, elle est une réussite totale. Sur le plan des astronautes eux-mêmes, ils ont mis le meilleur équipage vraiment de toutes les missions Apollo. C'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Le site était le plus beau site qu'on aurait pu imaginer, coincé entre un canyon et des montagnes. C'est là, cette mission, où ils ont trouvé la pierre de la Genèse, la fameuse pierre de la Genèse. Et ils ont ramassé d'autres échantillons, c'est très intéressant. C'est la seule mission où il y a eu 4 sorties lunaires, les autres n'en ont fait que 3. Donc, s'il y en a une parmi, on va dire, l'apex du programme Apollo, c'est vraiment la mission Apollo 15. Apollo 16, c'est la mission qui techniquement est parfaite, mais très décevante sur le plan de la géologie, puisque finalement, ce que dit John Young, c'est « Houston, j'aurais bien voulu vous dire, j'aurais bien voulu vous annoncer, mais en fait, il n'annonce rien, il ne peut rien dire, parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a que des cratères, il n'y a pas de volcans. » Parce qu'on on a essayé de le faire poser à un endroit où on pensait qu'il y avait des volcans, et c'était que des cratères. Et Apollo 17, eh bien, c'est une mission conçue pour faire partir un géologue de métier sur la Lune, qui est Harrison Schmitt, dans un site qui est très beau, et qui a validé un certain nombre d'hypothèses sur la naissance de la Lune. Alors, ce qu'on a compris après Apollo de la Lune, c'est que la Lune, en composition, ressemble aux roches que l'on trouve dans les fonds océaniques terrestres. Donc, c'est comme si c'était un morceau de croûte terrestre, ça ressemble à un morceau de croûte terrestre en orbite autour de la Terre. Voilà, c'est la Lune. Et plus tard, on a émis l'hypothèse qu'un corps de la taille de Mars était venu taper la Terre sur la Terre, mais tangentiellement, et avait arraché un morceau de cette croûte, et ce morceau de la croûte était passé en orbite, enfin c'est agglutiné, plein de petits cailloux sont agglutinés pour former la Lune au final. Et effectivement, on pense maintenant que c'est ça. Mais on n'aurait pas été sur la Lune, on n'aurait pas ramené ces pierres qui ont ramené ces missions Apollo 15, disons 15 à 17 principalement, on n'aurait pas pu comprendre la naissance de la Lune.
Vous montrez à travers, il y a d'ailleurs toute une sous-section de votre ouvrage qui présente tous les outils qui ont été utilisés sur la Lune. Quels sont-ils ?
Alors, ils avaient des outils conçus pour être manipulés par des gros gants. Donc, ils avaient, d'abord, ils avaient leurs gants, c'était le premier outil pour attraper les choses. Mais ils avaient des pinces, un peu comme on utilise pour les personnes du troisième âge. Vous savez, des pinces pour attraper des objets par
terre. Elles ont un nom particulier, d'ailleurs.
Oui, on dit les tongs. Mmh. Et, voilà. Et ça se manipule comme une seringue, donc avec un poussoir qu'on utilise avec le pouce et la tringle coincée, vraiment la canne de la... qui permet d'attraper, coincé entre les deux doigts, on arrive à attraper entre l'index et le majeur, et le pouce poussant, on arrive à attraper. Ça se manipule comme une seringue, et au bout, il y a une espèce de pince qui attrape le caillou. Voilà. Ils avaient des tubes qu'ils pouvaient enfoncer dans le sol pour récupérer des carottes de sol lunaire, jusqu'à 1 mètre, 2 mètres de profondeur. Bon. Ils avaient des marteaux, bien sûr, le marteau de géologue, très important. Ils avaient des caméras. Ils avaient des râteaux pour ratisser le sol. Alors, ratisser le sol, non pas pour enlever la poussière et ne garder que les petits gravillons. Hein, c'est intéressant. Donc, on voulait récupérer des petits gravillons, enfin en tout cas des éléments de sol de taille intermédiaire, qui n'étaient ni des pierres ni de la poussière lunaire. Bon, on ratissait le sol. Bon, et puis ils avaient une espèce de bêche qui permet de creuser des sillons profonds pour vérifier ce qu'il y avait dans le sous-sol.
Nous n'avons pas évoqué en fait le spectacle de la Lune, mais il y a dans la préface que fait David Scott, si je ne me trompe, c'est page 14 de votre ouvrage, c'est pas David Scott, c'est Garvin. Je me permets de la citer. « Avec aucune atmosphère ni vent, les seuls mouvements que nous pouvions détecter à la surface en dehors des nôtres étaient les ombres qui diminuaient graduellement au fur et à mesure que le soleil s'élevait dans le ciel. Il n'y avait pas de formation familière autre que les roches et les cratères. Il n'y avait pas d'arbres, de fourrés, de rivières, de ruisseaux, de fleurs, d'herbes, d'animaux ou d'oiseaux. Aucun des signes de la nature qui stimule la vie humaine sur la planète Terre. Il n'y avait pas de son. » Non plus, il n'y a pas de son, il n'y a pas de vent sur la Lune.
Non, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est pour ça que le ciel est noir. Un noir très intense. Alors, la question qu'on pose toujours, c'est mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les étoiles sur les clichés Apollo ? Alors, c'est comme sur Terre. Pour voir les étoiles la nuit, il faut poser plusieurs secondes, voire 2-3 secondes pour commencer à voir les étoiles pour impressionner une pellicule photographique. Et là, les paysages étaient illuminés par le soleil, ils travaillaient au 250e de seconde. Donc, au 250e, aucune étoile ne peut apparaître sur les clichés. Et eux-mêmes, visuellement, avaient du mal à les voir parce qu'ils avaient l'œil saturé par la lumière du soleil et donc ils ne pouvaient pas discriminer les étoiles.
Je continue, il n'y avait donc pas de bruit en dehors du doux bourdonnement de l'équipement dans nos sacs à dos de survie. Il n'y avait ni nuages, vous venez de le dire, ni brume, ni brouillard ou pluie. Il n'y avait pas de couleur autre que des nuances de gris. Et c'est ce gris qui, ma foi, ressort de cet ouvrage. Mais il n'y a pas de monotonie. Il n'y a pas de monotonie, il y a une extraordinaire aventure.
Oui, parce qu'en fait, même le gris, on s'aperçoit que le gris est vivant. Parce que d'abord, par contraste, il y a des objets humains qu'on met dessus. Et donc, il éclate encore plus. Et puis, il n'est pas exact, c'est pas un gris terne. Il change visuellement en fonction du soleil, si on a le soleil dans le dos ou si on a le soleil devant soi. Donc, on a des teintes qui varient un petit peu quand même de la poussière lunaire. Et puis, il y a des roches qui ressemblaient, des roches vertes, bleues, qui étaient légèrement teintées. Puis, il y a ce fameux sol orange qu'a découvert Harrison Schmitt pour la mission Apollo 17, où on découvre un sol effectivement qui a une teinte un peu rougeâtre. Voilà, donc t'entends, il y a des couleurs quand même.
Alors nous arrivons, Olivier de Corsac, peu à peu au terme de cette émission. Encore peut-être deux ou trois questions. James Garvin, encore une fois, qui est directeur à la NASA, explique que la NASA est en pleine révolution. Et il envisage un avenir pour les voyages lunaires. Est-ce que, précisément, il y a un nouvel avenir, de nouvelles perspectives à la conquête de la Lune ?
Alors oui, il y a des perspectives, puisque, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, l'Amérique s'est lancée dans un programme qui s'appelle le programme Constellation, qui est un programme voulu par le président Bush, qui est d'organiser le retour d'hommes sur la Lune. Alors, il ne s'agit pas d'organiser le retour de l'homme sur la Lune pour aller sur la Lune, c'est pour tester plus tard des engins qui vont vers Mars. Donc, parce qu'on considère que la Lune est un laboratoire excellent, c'est tout proche de la Terre, et qu'on peut facilement tester sur la Lune des équipements qui plus tard partiront vers Mars. Pourquoi ? Parce que s'il tombe en panne, on peut le récupérer. La Lune, c'est 3 jours de voyage. Mars, c'est beaucoup plus loin. Et puis à terme, installer une base sur la Lune. Donc c'est ce que souhaite plutôt l'Amérique. Alors,
le président Obama va remettre ça, va pas remettre ça complètement en cause. Il a demandé simplement, parce que la NASA est un peu en retard sur son planning, a demandé à ce que la NASA regarde pourquoi elle est en retard, et si elle est vraiment en retard, bah, qu'il change le système. C'est plus une question de prestige pour l'Amérique de retourner sur la Lune, c'est une question vitale, parce que s'ils ne font pas cet effort sur le plan technologique, ils n'y retourneront jamais. On est incapable aujourd'hui de refaire Apollo. Il faut savoir que d'abord, les plans qui avaient été dressés à l'époque sont des plans sur du calque, qui ont été faits sans conception assistée par ordinateur. Et donc, un ingénieur d'aujourd'hui est incapable de les lire. En tout cas, il a beaucoup de mal à les lire. Et donc, on est obligé de redémarrer de zéro et il faut tout réinventer. Et si l'Amérique ne fait pas cet effort de réinventer le voyage vers la Lune, dans deux générations, on ne saura plus du tout le faire. L'espace est un domaine frontière, c'est un peu comme l'énergie nucléaire. Si on n'entretient pas nos connaissances, très vite, on les perd et on est incapable de refaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le degré de maturité encore pour se dire c'est de l'acquis. C'est pas comme une ampoule électrique où maintenant on sait les faire depuis maintenant 120 ans. Et on se dit que même après une catastrophe, on retrouvera le procédé pour les fabriquer. L'espace, on n'est pas encore de ce stade-là. Il faut, si on n'y retourne pas, si on ne lance pas des fusées, si on ne fait pas l'effort de mettre tout le temps des hommes en orbite, on perdra très vite la technologie et la technique. Et on ne saura plus mettre des hommes dans l'espace. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi de mettre des hommes dans l'espace ? Ben, tout simplement, ça sert aux générations futures, parce que les générations futures seront peut-être très reconnaissantes le jour où on aura trouvé des nouveaux systèmes de propulsion qui nous permettront peut-être d'atteindre des étoiles, d'avoir maintenu la flamme, même dans les temps difficiles, pour ben, le jour où on trouve quelque chose, une percée technologique importante, ben, d'assurer aussi un avenir à l'humanité. Peut-être qu'il y a une autre Terre pas loin d'ici, à 5 années-lumière, 10 années-lumière, qui attend que d'être colonisée par l'homme. Et de servir justement de déversoir au trop plein d'humanité qu'on a sur chez nous. Hein, et on peut peut-être redémarrer quelque chose d'un peu plus propre ailleurs aussi. Vous voyez, donc il faut maintenir la flamme, c'est important. C'est une question de survie aussi pour l'humanité. Donc on est à l'âge où l'homme est capable de sortir de son berceau. On a montré que l'homme pouvait quitter sa Terre et au moins aller sur la planète la plus proche. Pour lui, c'est la Lune. Mais il faut qu'il aille au-delà. Il ne faut pas, surtout pas abandonner. Il y a un ouvrage que j'invite peut-être vos auditeurs à lire, qui est un ouvrage assez amusant, qui s'appelle « L'Empire de l'atome » d'un bon auteur de science-fiction qui s'appelle Van Vogt. Où le héros se demande, finalement, dès le début de l'ouvrage, mais comment ça se fait que ma civilisation, donc civilisation qui est un peu lointaine dans le passé terrestre, comment ça se fait que ma civilisation, finalement, connaît des engins spatiaux, mais ne sait se battre qu'avec des arcs et des flèches, et finalement, connaît le nucléaire, mais en a fait une religion. Parce qu'en fait, c'est ça. L'humanité s'est effondrée, et le savoir n'est passé que par la religion. Et l'espace, ça pourrait être ça, si vraiment tout s'effondrait. Bon. Et on n'en est pas encore là. On en est à essayer de maintenir la flamme sur le plan budgétaire.
Donc la Lune reste à la fois un défi de connaissance,
oui,
mais aussi une énigme.
Et une obligation. C'est-à-dire qu'il faut continuer. Elle est face à nous et on est obligé d'y retourner. Si l'homme se dit « je ne vais pas sur la Lune pour aller plus tard vers Mars », enfin le but c'est d'aller vers Mars, bon, ou d'aller coloniser d'autres systèmes stellaires. Ce n'est pas s'arrêter en tout cas sur la Terre. La Terre elle est belle, il faut la protéger, on doit la laisser propre à nos enfants, à nos petits-enfants, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je veux dire, l'homme il est fait pour explorer, il ne doit pas tourner en rond en permanence dans son appartement, il est fait pour ouvrir la fenêtre et regarder ce qu'il y a dehors. Et c'est comme ça qu'il lui-même progressera aussi. Et donc si on ne fait pas l'effort d'aller voir ce qui se passe, donc la Lune en fait partie, c'est une étape parmi d'autres, et l'humanité est en panne et on ne peut pas rester en panne. Si on reste en panne, c'est-à-dire qu'on se sclérose, on n'évoluera plus et nous sommes condamnés à l'évolution. Et c'est dans le sens de l'humanité, je veux dire, on n'a pas le choix et ne pas le faire serait une très très grave erreur, y compris pour nos descendants, qui pourraient nous le reprocher. Vous avez connu un âge d'or, vous étiez incapable de le faire. Au niveau historique, regardez comment les gens au 7e siècle ont jugé les générations qui ont laissé l'Empire romain s'effondrer, qui avaient la mémoire par leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, qu'on se faisait soigner la cataracte, qu'on pouvait soigner dans le mou, qu'on commençait à traiter un certain nombre de cancers, qu'on commençait à faire de la chirurgie compliquée du temps de l'Empire romain, enfin au 3e, 4e siècle, on savait opérer, réduire des fractures, enfin faire des choses extrêmement, même faire des césariennes, tout ça c'est des truismes, tout le monde le connaît, mais enfin, on savait faire des trépanations dans le cerveau, enfin on savait faire plein de choses. Et imaginez, regardez, nous sommes à Paris, regardez ce qu'écrivait, ce que disait de son temps la patronne de Paris, Sainte-Geneviève, qui a vécu l'effondrement de l'Empire. Elle a démarré, elle, sous une espèce d'apogée de l'Empire romain, où les gens vivaient très bien, étaient soignés, nourris, blanchis, une civilisation que nous avons rattrapée en 1830 finalement, et elle a connu cet effondrement et elle est morte sous Clovis
Et c'était déjà un âge pré-barbare, où il y avait, bah, pas barbare, on va pas dire comme ça, parce que c'était organisé. La barbarie, ça serait désorganisé. Une société très organisée, mais sans aucune technologie, sans aucun savoir-faire, il n'y avait plus rien. Et ils ont reproché aux Romains de s'être battus, de ne pas avoir su maintenir ça. Et moi, je ne voudrais pas que nos petits-enfants nous reprochent, bah, écoutez, grand-papa, regardez autrefois, vous avez été capable de faire ça, qu'est-ce que vous nous laissez comme monde ? Un monde pollué ou peut-être en voie d'amélioration, parce que j'espère que ça sera en voie d'amélioration, mais en tout cas plus capable de faire rêver par de nouvelles conquêtes, les jeunes.
Eh bien, c'est sur cet appel à la conquête que nous allons nous quitter, Olivier de Coursac. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Je rappelle votre ouvrage, donc, intitulé Lune, un ouvrage paru chez Talendien, ouvrage préfacé par David Scott et James Garvin. Je voulais dédier cette émission à une personne tout particulièrement. C'est un soldat qui est actuellement en Afghanistan. Je sais qu'il nous écoute régulièrement. J'ai rencontré dernièrement son épouse et elle nous a dit qu'elle était bien fidèle à Canal Academy. Et de savoir que la connaissance arrive jusque dans les déserts d'Afghanistan, eh bien, je m'en réjouis. Je salue ce jeune soldat qui s'appelle Bertrand. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire.